Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Waouh!
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bande dessinée. Bonjour à tous, il est 10h30 sur Art District Radio et j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Dubreuil pour Bulle d'Histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Julie, c'est un plaisir partagé, je dois le dire, c'est deux fois par mois. C'est pas assez, mais c'est déjà pas mal.
Écoute, c'est déjà pas mal, alors peut-être qu'à la rentrée,
on verra.
On pourra accélérer le mouvement, hein. c'est possible.
En tout cas, je crois que c'est la 13e bulle d'histoire, si j'ai bien compté. Ce matin, sur mon scooter, en venant, j'ai essayé de me rappeler. Donc on en est à la 13e émission. Et pour cette 13e émission, je reçois Laurent Lerner, qui est le fondateur, directeur, éditeur du label Delirium. Et il vient nous parler à la fois de son travail d'éditeur et de la dernière bande dessinée qu'il vient de sortir, qui est un comics américain sur la guerre du Vietnam. Vietnam Journal, mais Julie nous redira tout ça à la fin. Laurent, est-ce que vous pouvez nous dire avant de commencer, question rituelle, qui êtes-vous ?
Bonjour Stéphane, bonjour Julie.
Bonjour.
Et ben oui, je suis donc éditeur de la maison d'édition Delirium, que j'ai créé maintenant, ça va faire bientôt 9 ans. Et effectivement, le dernier titre que je viens de publier, donc c'est le Vietnam Journal de Don Lomax, qui est une bande dessinée américaine consacrée à la guerre du Vietnam. Et d'ailleurs, j'avais commencé aussi en publiant une BD historique à l'époque qui s'appelait La Grande Guerre de Charlie. Et c'est comme ça que j'ai au fil des albums, constitué un catalogue d'éditeurs.
On va reparler de La Grande Guerre de Charlie et du Vietnam. Juste, votre travail d'éditeur, c'est un travail un peu particulier par rapport à d'autres dont on a pu parler ici. Vous ne publiez que des comics américains ou anglais, que des traductions. Quel est, pourquoi ce choix ?
Alors tout à fait, c'est un choix, je dirais, c'est une question d'affinité culturelle. Hein. J'ai grandi en lisant des comics, donc c'est vrai que toutes mes références en bande dessinée se sont constituées à partir de comics britanniques ou américains.
Alors il faut dire que ce n'est pas des comics de super-héros.
Non.
La plupart sont des comics de, on va dire, fantastique, d'horreur et des choses très réelles, comme des bandes dessinées de guerre. Pourquoi vous aviez décidé de commencer votre carrière d'éditeur avec une histoire sur la guerre de 14, donc la Grande Guerre de Charlie ? Je dois dire que ça fait quand même 10 volumes. Je les ai tous chez moi, ça fait beaucoup, beaucoup de pages, c'est absolument merveilleux. C'est une chose que personne ne connaissait ici. Pourquoi avoir choisi ce titre ?
Parce que j'y croyais, tout simplement. Hein. Je trouvais que c'était une BD très forte, tant au niveau de la qualité d'écriture qu'au niveau du dessin. Il y a une capacité d'immerger le lecteur dans le conflit et le traitement. Et en plus, c'est vraiment un traitement à échelle humaine. On ressent ce que les personnages ressentent, on vit et on meurt avec eux. Et donc voilà, c'était une BD très forte, passionnante, qui rejoignait pas mal d'aspects ce qu'on connaissait en France avec celle de Tardy, mais sur un traitement complètement différent, qui est celui de la BD anglo-saxonne, de la série hebdomadaire en l'occurrence.
Est-ce qu'on peut comparer rapidement les deux approches entre une bande dessinée qu'on pourrait qualifier de française et une BD plus anglo-saxonne ?
Oui. Alors, pour moi, ils sont très très proches. C'est-à-dire que dans le ton, dans le regard critique sur la Première Guerre mondiale, dans les sujets qu'ils abordent qui sont assez politiquement incorrects, et justement avec cette volonté de montrer des choses qui avaient été occultées par l'histoire officielle pendant des années, ils se rejoignent naturellement. Et d'ailleurs, ces bandes dessinées, par exemple, c'était La Guerre des Tranchées et La Grande Guerre de Charlie sont à peu près contemporaines. Donc c'était vraiment ces questions-là émergées, ce traitement-là émergé à peu près au même moment de chaque côté de la Manche. Et donc voilà, c'est en revanche un traitement totalement différent. On est sur une analyse critique dans les BD de Tardy, là où on est dans la série avec les mécanismes du sérial dans la Grande Guerre de Charlie, où on rebondit d'épisode en épisode et en même temps en suivant le fil de l'histoire.
Et est-ce qu'on peut trouver une raison au fait que ces bandes dessinées, je répète, extraordinaires, sont totalement inconnues en France ?
Je pense qu'il y a pas mal de raisons. La première, c'est que dans le cas de la Grande Guerre de Charlie, c'était une bande dessinée parue dans le courant des années 80, on va dire, entre 79 et 88, en gros. C'était du noir et blanc, ça paraissait dans un journal. Donc, en gros, 4 pages par semaine. Et c'est pas du tout la même culture de l'objet de la bande dessinée, du livre. Là, on est dans du journal, dans du jetable, donc ce qui est resté pendant très longtemps considéré comme une sous-culture. Hein. Ensuite, voilà, une vieille BD en noir et blanc sur la Première Guerre mondiale avec un traitement des personnages anglais. C'est vrai que c'était pas forcément limpide comme choix éditorial pour un éditeur français. Quand j'ai créé la structure à l'époque, je trouvais que cette BD touchait particulièrement par sa capacité à faire s'identifier le lecteur avec les personnages. Donc je trouvais que ça avait un vrai intérêt, et en plus ça montrait un autre point de vue de la guerre qu'on connaissait pas vraiment ici en tant que lecteur. Pour nous, le conflit, c'était surtout les Français contre les Allemands, en fin de compte. Hein. Même si après, il y a tout un tas de sources et de qui permettent d'explorer ça plus, mais en bande dessinée, on était resté là quand même. Donc c'était une façon d'aborder ça d'un point de vue différent, avec un traitement culturellement différent. Et en plus, c'est vrai que le timing s'y prêtait, parce que j'ai publié le premier volume en 2011. Et le temps d'installer la série, on arrivait aux commémorations, et donc il y avait effectivement une visibilité, un retentissement.
Et est-ce que le public français a accroché à cette série ?
Oui, oui. La série, en fait, la maison d'édition Delirium s'est créée pendant que cette série était publiée au fur et à mesure. Et c'est vrai que cette série a aidé à installer la maison d'édition. Je crois que j'en suis au cinquième tirage là, du volume 1, donc ce ne sont pas des gros tirages, mais en tout cas ça veut dire que la série s'est installée dans le fond et les livres continuent à tourner.
On va parler maintenant de Vietnam Journal, donc, qui vient de sortir. C'est un album très étonnant quand on s'intéresse un peu à la littérature sur la guerre du Vietnam. C'est aussi un album qui s'inscrit bien dans la politique éditoriale de Delirium, qui a un petit côté rebelle et critique de la société. En tout cas, quand on regarde votre catalogue, on se pose des questions sur ce qu'il y a autour de nous, ce qui est quand même toujours intéressant avec des Judge Dredd. Et Vietnam Journal, ça continue. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quelle est l'histoire de cet album ?
Oui, alors, déjà, ce que vous dites, effectivement, c'est un ingrédient important. C'est-à-dire que je veux, malgré tout, avec Delirium, à la fois être dans la bande dessinée de genre, donc la guerre, le fantastique, l'épouvante, l'horreur, la science-fiction, l'humour, etc. On est vraiment dans la BD de genre, ou la série noire. Mais c'est à la fois un divertissement qui doit soit nous aider à nous poser des questions sur certains événements, certains faits de société, ou alors créer des passerelles avec d'autres supports, des films, des œuvres de littérature, etc. Donc c'est vraiment l'idée, que le divertissement soit aussi une porte ouverte sur quelque chose qu'on aura envie de découvrir et d'explorer. Donc Vietnam Journal, c'est une bande dessinée sur un conflit que finalement on connaît assez peu en France, hein, parce que c'est vrai que c'est pas un conflit que nous avons vécu directement. Donc je trouvais ça intéressant. En plus, c'est un conflit dont on a beaucoup entendu parler via le retentissement aux États-Unis à l'époque et via la culture populaire, les films par exemple comme Apocalypse Now ou Voyage au bout de l'enfer. Voilà, c'est un conflit que je trouvais assez intéressant, assez passionnant, assez terrible et qui est pas si loin de nous de fait, parce que c'est vraiment dans la suite de la décolonisation, hein, que ça s'est installé.
Oui, d'ailleurs, Vietnam Journal, il y a beaucoup de choses qui rappellent ces films.
Oui.
Qui rappellent tous les films américains. Apocalypse Now, peut-être pas, mais...
Ouais, même certains plans, parfois, enfin, plus dans les volumes suivants, vous verrez l'année prochaine, il y a effectivement des plans sur des hélicoptères qui sont typiques et qui évoqueront systématiquement Apocalypse Now. Et donc voilà, en tout cas, cet ouvrage m'intéressait, enfin cette série m'intéresse, parce que c'est Don Lomax, c'est un vétéran de la guerre du Vietnam, qui a été envoyé au Vietnam en 66, donc comme soldat de base, hein, et donc qui, entre guillemets, est rentré et a toujours vécu avec la guerre du Vietnam. C'est-à-dire qu'il a commencé à travailler sur cette bande dessinée dans les années 80, il prenait déjà des notes à l'époque quand il y était. Et donc il a publié cette BD, il a commencé dans les années 80, et il ne s'est jamais arrêté. C'est-à-dire qu'il continue régulièrement à travailler sur, euh, sur le Vietnam ou sur les conflits, sur les autres conflits.
C'est une sorte de thérapie quasiment.
En un sens, oui. Ouais, ouais. Et en même temps, c'est un besoin de montrer au lecteur, de parler d'un conflit qui est souvent mal perçu, mal compris. D'ailleurs, en premier lieu par les soldats eux-mêmes, hein, qui ne savaient pas où ils allaient se retrouver et pourquoi ils y étaient. Et donc voilà, c'est une façon aussi de continuer à expliquer pourquoi ils y étaient, comment ils l'ont vécu, comment ils l'ont subi surtout, et comment ça a été une espèce de bulle d'horreur absurde dans laquelle ils ont été plongés. Comme je disais, sans savoir pourquoi.
Ce qui est intéressant dans cette bande dessinée, c'est que ce n'est pas raconté par un soldat. On n'a pas le point de vue d'un soldat, on a le point de vue d'un reporter, dont le surnom va être Vietnam Journal.
Oui, tout à fait.
Et c'est un reporter qui est envoyé par son journal pour faire un sujet sur le Vietnam. Il va se retrouver plongé avec des soldats, et finalement, il va vivre leur vie, et il va les accompagner absolument partout.
Ouais, tout à fait. C'est là qu'il mélange à la fois son expérience à lui et l'expérience de ses amis, des gens qu'il a côtoyés, ou qui tout est inspiré hein, d'histoires vraies. Hein, voilà, c'est ce qui lui permet d'être en permanence à la fois immergé dans ses souvenirs et dans les expériences que d'autres ont vécues et lui ont racontées. Et c'est vrai qu'en plus il y a cette approche du journaliste reporter de guerre qui à l'époque était sur le terrain. Il y en a beaucoup qui y sont restés d'ailleurs, mais qui accompagnait les soldats en opération, et c'était d'ailleurs une des premières guerres entre guillemets télévisuelles, donc beaucoup y sont restés. Ouais.
Il a aussi un regard très tendre pour les soldats. Visiblement il les aime bien, il les apprécie. Je ne sais pas si on peut dire qu'il les admire, mais en tout cas il les voit dans des situations tellement paroxystiques qu'il a beaucoup de gentillesse pour eux.
Oui. Alors, je ne sais pas s'il les admire, mais en tout cas, il les comprend et il les respecte. Parce qu'en fait, c'est là qu'il a un peu les deux casquettes, hein, vu qu'il il a été lui-même en tant que soldat de base, à se taper les corvées, les gardes, etc. dans ce contexte. C'est l'approche qui l'intéresse, c'est justement de parler de l'homme de troupe, quoi, celui qui est sur le terrain et qui est en première ligne, qui subit tout. Et qui n'est pas forcément un héros, un mec super cultivé, voilà, c'est souvent quelqu'un qui sort de sa campagne, ou qui sort de sa banlieue, ou qui sort de son quotidien, qui se retrouve en gros en quelques semaines plongé dans un univers où de toute façon, quoi qu'il arrive, il n'est absolument pas préparé à ce qu'il va y vivre.
Ça, c'est un côté qui est bien rendu, en tout cas dans toutes les pages, c'est qu'on est plongé nous-mêmes dans un truc absolument incompréhensible.
Oui, et d'ailleurs c'est ce qu'il redit souvent, il revient régulièrement sur cette phrase en disant « je ne sais pas combien de temps il va me falloir pour devenir aussi fou que les autres, et est-ce que je m'en rendrai compte ?» C'est qu'on est vite conscient d'être immergé dans un univers qui est complètement déconnecté de la réalité, qui est presque complètement fermé sur lui-même, et qui est complètement absurde, c'est-à-dire que tous les protagonistes en fait ne comprennent pas ce qui se passe. Donc c'est vrai que... Bah, il y a à la fois cette affection qu'il a pour eux, ce respect qu'il a pour eux, cette compréhension, et en même temps, il est perdu avec eux aussi. Quoi.
Il y a une autre chose qui est frappante, c'est que les Vietnamiens sont quasiment absents. Ils sont très peu là, quoi. On ne sait pas si ça l'intéresse ou pas, mais en tout cas, ils sont pas là.
Bah, surtout dans un premier temps, c'est-à-dire que là, on découvre un univers qui est complètement étranger. Et c'est vrai que pour le soldat américain qui débarque là-dedans, qui est plongé dans une jungle où toutes les sensations qu'il a sont complètement nouvelles, complètement différentes de ses habitudes, c'est vrai aussi pour les Vietnamiens. Il ne sait pas reconnaître un bon Vietnamien d'un méchant Vietnamien, entre guillemets. Donc c'est un univers qui est juste mortel, pour l'instant, qu'on découvre dans ce premier volume, et qu'on découvre avec... vraiment par étapes, c'est-à-dire que là on découvre déjà l'univers visuel, la jungle, la mort qui est présente, et qui tombe comme ça de manière complètement imprévisible. Et c'est ça surtout qu'on découvre dans ce premier volume, avec cette immersion qui est vraiment très, très réussie, je trouve, parce que comme il écrit et il dessine et il y a été, on est vraiment... on est vraiment immergé dans ses souvenirs et dans la perception qu'il a des histoires qu'on a pu lui raconter aussi.
Avant de finir, il faut qu'on parle du dessin, parce que c'est un album tout en noir et blanc. Mais il y a un jeu sur les lumières, notamment. Et là, je vois, page 51, il y a des portraits de soldats dans la jungle, avec des effets de feuilles, des effets d'ombre, c'est un dessin qui est absolument bouleversant, très très beau, dramatique et quelquefois même assez drôle.
Oui, c'est un. Ouais, il a vraiment. En fait, de la même manière, quand il dessine les histoires qu'il nous raconte, on a l'impression qu'il est dedans, qu'il revit les sensations, l'environnement, la moiteur de la jungle, les lumières. On retrouve des sensations en fait qu'il arrive très bien à retranscrire de ce qu'il a pu vivre. À l'époque dans ce contexte et le dessin est donc entièrement au service à la fois de son histoire et des sensations qu'il peut éprouver, qu'on doit éprouver en s'identifiant avec les personnages.
Eh bien Charles-Laurent, je vous remercie. Cher Julie, je crois qu'on s'est presque tout dit, il ne reste plus qu'à lire Vietnam Journal.
Oui, Vietnam Journal donc de Don Lomax chez Delirium. Delirium, c'est votre maison d'édition, Laurent, qui est basé à Nogent-sur-Marne.
Oui, tout à fait.
Alors, on peut aussi, j'imagine, en savoir plus en allant sur le site internet, est, donc je le cite, labeldelirium.com. On y retrouve donc toute votre collection. Vous parliez de genre, il y a différents genres. Un petit mot là-dessus, peut-être, sur la présentation de vos collections.
Oui, alors c'est vraiment ça. On est sur de la bande dessinée de genre. Donc. Science-fiction, fantastique, guerre.
Voilà, donc plein de passionnés, noir. J'imagine, sont aussi curieux et sont en contact avec vous depuis 9 ans. Voilà, c'est aussi un domaine de passionnés, la bande dessinée de genre.
Absolument, ouais, tout à fait.
Alors, j'ajoute que Laurent est un garçon modeste. Il publie un auteur dont je ne suis pas forcément très fan, qui est Corben, qui a eu le Grand Prix à Angoulême il y a 2 ans. Donc voilà, j'invite les gens à découvrir cet auteur très particulier, vraiment spécial et assez décoiffant.
Voilà, et donc cette maison d'édition qui s'appelle, donc je le rappelle, Delirium. Et on vient de parler avec vous, Stéphane, donc de Vietnam Journal, un nouvel album qui sort donc chez vous, de Don Lomax. Et on peut le retrouver pour 20 euros, donc un prix assez correct hein, pour une belle bande dessinée. Je précise que c'est en noir et blanc, je crois. Hein,
absolument.
Il a créé cette bande dessinée, il l'a faite en noir et blanc.
Très journalistique, finalement.
Ouais. Ouais. Oui, oui. Il est vraiment dans du reportage de guerre, mais voilà, il mélange, il romance ses histoires.
Alors, pour en savoir plus, sur cette guerre du Vietnam qu'on croit connaître, hein, puisqu'évidemment, on a tous vu des millions de films américains, comme on a dit tout à l'heure. Et donc là, c'est peut-être un regard un peu différent pour rentrer à nouveau dans cette guerre du Vietnam, mieux la comprendre. Merci beaucoup, Laurent Lerner, d'être passé chez Art District.
Merci beaucoup.
D'être venu dans Bulle d'Histoire. C'est donc la fin de l'émission. Au revoir, Stéphane.
Au revoir, Julie.
À la prochaine fois.
À bientôt.
À bientôt.
Bulle d'Histoire. Bulle d'Histoire avec Stéphane Dubreuil. Waouh ! Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mmh.